Mondo Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Elodine Tamuzinda, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec VOA Afrique.
Merci, chère Nathalie, c'est pour moi un plaisir et un honneur.
Alors, vous êtes spécialiste en entrepreneuriat féminin et des jeunes aussi. Mm-hmm. Vous êtes experte au Conseil économique et social de la RDC. Mm-hmm. Et vous êtes également déléguée au Conseil consultatif électoral de la SADEC. Mm-hmm. Alors, vous avez un long parcours, notamment sur les questions électorales, sur les questions économiques, et vous êtes particulièrement centrée sur les questions économiques en ce qui concerne le genre, donc oui, l'entrepreneuriat féminin. Oui. Pourriez-vous nous retracer brièvement votre parcours jusqu'à présent?
En bref, je peux dire que j'ai commencé toute jeune, et lorsque j'étais à l'école primaire, au lycée, avec des mouvements scouts, que ça varie au niveau de l'église catholique également, et voilà que j'ai développé un esprit entrepreneurial et communautaire. Et lorsque je suis devenue mère, femme, mariée, j'ai continué dans ce rythme et voilà que j'ai commencé à regrouper d'autres femmes au sein des associations, au sein des réseaux, et ainsi de suite. Mais par après, nous avons compris que cela ne suffisait pas de rester à cette étape. Il fallait être en partenariat avec le gouvernement, mais aussi avec d'autres partenaires au niveau national, sous-régional, régional et international. Et là, c'était pour voir qu'est-ce que nous pouvions apporter du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue social, mais aussi gouvernance du pays. Alors, il a fallu que nous puissions faire entendre nos voix, les voix féminines, les voix des jeunes, mais il faut aussi encourager toutes les femmes partout où elles sont, dans les villages, dans les quartiers, dans les coins reculés, puisque moi je suis à 2000 km de Kinshasa, là où je ne pouvais pas croire qu'un jour je pouvais aussi m'asseoir avec d'autres femmes, professeurs, docteurs, journalistes, au niveau national et même au niveau international.
Donc vous êtes dans l'est de la République démocratique du Congo.
Exactement. Je suis née et grandie à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vis à Kinshasa. Je suis à des réseaux de femmes au niveau africain. Donc c'est pour encourager toutes les femmes partout où elles sont. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est dans un village ou dans un coin reculé du pays, on ne peut pas apporter de son sien. Il faut toujours travailler et travailler dur.
Donc à Washington, c'est à propos de l'AGOA justement, et la République démocratique du Congo a été réintégrée dans l'AGOA, hein, ce fameux système de coopération entre les États-Unis, donc au niveau commercial et les pays africains. Mm-hmm. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous attendez finalement des États-Unis?
Je peux vous avouer que nous, en tant que société civile, le mouvement des jeunes, des femmes, nous avons beaucoup milité pour que notre pays réintègre AGOA. Et comme nous avons été retirés depuis 2011, suite aux motifs qui ont été évoqués, la mauvaise gouvernance, les élections opaques, les violences faites aux femmes, les droits humains qui étaient bafoués. Et nous avons compris qu'avec les lobbying, les plaidoyers que nous faisions, nous tous ensemble, les progrès continuaient à se faire. Nous avons quitter le carcan des droits des femmes classiques et traditionnels vers l'entrepreneuriat féminin où les femmes devraient observer les filières de production, de la préparation des terres en passant par les semences, culture, jusqu'à la récolte et même la commercialisation.
Élodie Tamuzinda, sur cette question-là, l'entrepreneuriat féminin. Au niveau du Conseil économique et social, vous êtes experte. De quelle manière intervenez-vous pour mettre en avant les activités de ces femmes? Pourriez-vous nous expliquer quel type d'influence vous avez auprès de ce Conseil?
D'abord, je peux dire que je suis experte au sein du Conseil économique et social aujourd'hui, puisque je viens de ce mouvement-là de femmes. Donc nous avons suivi tous les parcours, tous les combats de l'entrepreneuriat féminin, voir comment la femme devrait être réellement autonome. Alors, dans la sensibilisation et la mobilisation des femmes, il fallait aussi leur montrer comment réellement créer ses propres entreprises. En créant les petites entreprises, il faut voir comment maintenant suivre les filières de production, de conditionnement et de la certification. C'est pour cela que nous avons encouragé le partenariat entre la société civile et le gouvernement à travers le commerce extérieur, l'industrie, l'OCC qui certifie les produits. Alors, en sensibilisant les femmes, on doit leur montrer les voies. Aujourd'hui, nous avons ces femmes qui produisent, transforment, conditionnent leurs produits, mais les produits doivent parachuter sur les tables des différentes autorités, bien présentés dans les supermarchés, dans les différentes boutiques. Et donc, il faut que nous soyons maintenant à même de fournir les États-Unis, nous aussi. Les États-Unis, c'est un grand marché. Et donc, il y a AGOA qui est là. Et c'est pour cela que nous avons plaidé pour que ces femmes qui produisent soient à même aussi d'exporter leurs marchandises. Et aujourd'hui, nous avons le ministre du Commerce extérieur qui comprend l'enjeu et nous ne devons que l'encourager et pousser davantage pour que le plaidoyer que nous avons mené, afin que la RDC soit réintégrée, que les femmes produisent et transforment et commercialisent, exportent au niveau des États-Unis, soit une réalité.
À propos d'économie et de développement en République démocratique du Congo, le taux de chômage de la jeunesse est très élevé. Est-ce que vous avez des initiatives particulières qui pourraient permettre à de nombreux jeunes de créer leur entreprise ou bien d'être embauchés dans des entreprises?
C'est ça la situation paradoxale. Lorsque nous avons des ressources que nous ne savons pas transformer réellement en richesse, et donc c'est comme ça que nous avons commencé par les programmes de formation, de sensibilisation, de vulgarisation et de plaidoyer. Puisque lorsque nous, à notre niveau, nous nous formons, nous sommes limités. Il faut trouver maintenant des organisations, des structures qui sont habilitées à les faire. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs qui sont en train vraiment de se former avec la nouvelle technologie. Et les jeunes doivent être aussi au diapason, et même les femmes, par rapport à ces thématiques-là. Il ne suffit pas aussi de dire oui, nous sommes déjà la RDC, nous produisons, auprès de qui est-ce que nous allons livrer? Le plaidoyer pour qu'on sache réellement que ces jeunes sont à même de les faire. Aussi vendre les produits, les exposer, donc là, comment est-ce que les produits sont certifiés, comment est-ce que c'est conditionné, est-ce qu'il n'y a pas de produits made in DRC qui sont exportés sous d'autres labels? Et donc là, il faut aussi labelliser nos produits. Ça doit être aussi l'apanage du gouvernement, d'où le partenariat public-privé.
Alors justement, quel est le potentiel que vous avez remarqué en cette population extrêmement prometteuse?
C'est une jeunesse très forte, très engagée et vraiment sur le marché d'emploi. Tout ce qui manque, c'est l'accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui a fait à ce que nous commencions à plaider au niveau national, sous-régional et aujourd'hui au niveau mondial. Avec notre sol fertile, avec notre environnement, avec notre végétation, la diversité des plantes et des cultures que nous avons, il faut vraiment goûter aussi les mets congolais. Les jeunes et les femmes travaillent les sacs, les beaux sacs que nous devons exposer et que vous aussi vous ayez vraiment l'envie d'aller approcher ces jeunes.
Élodie Tamuzinda, pour créer ces projets, on sait toujours que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas accès aux banques, aux prêts, etc. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières qui sont en place?
Exactement, là nous parlons de l'éducation financière. Et donc par là, nous avons parlé de nos limites, et nous devons être vraiment conscients de ça. C'est comme ça que nous sommes en contact, pas seulement avec le gouvernement, mais avec d'autres institutions de la Fédération des entreprises du Congo, que nous appelons FEC en sigle, où il y a des entreprises de microfinance qui acceptent de nous ouvrir leurs portes, nous former et ouvrir aussi nos comptes et commencer à nous suivre pour nous montrer la différence entre la consommation et l'épargne, entre la production locale et ce que nous sommes en train d'importer. Et donc nous ne pouvons pas continuer à consommer ce que nous ne produisons pas, et lorsque nous produisons, nous devons le faire durablement, c'est-à-dire être en mesure d'épargner et de planifier l'avenir.
Elodine Tamuzinda, au niveau électoral, vous êtes aussi déléguée de la RDC au Conseil consultatif électoral de la SADC. Donc là, on parle au niveau régional. On a compris effectivement que certaines élections ne se sont peut-être pas très bien passées. On a reproché certaines choses à la CENI. Vous avez d'ailleurs été membre de la CENI également. Et aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer un petit peu le concept finalement au niveau électoral, au niveau de la SADC, tout ce qui regroupe ces questions électorales et économiques? Parce qu'on comprend que tout est lié, la sécurité, l'économie, les élections.
Exactement. Mais comment je suis, d'abord, je me suis retrouvée dans ce monde électoral. Dans la sensibilisation que nous faisions, il fallait aussi observer. Il faut avoir un œil sur ce qui se passe lorsqu'il s'agit du processus électoral. Et voilà qu'en 2006, lorsque nous avons eu les premières élections démocratiques après Sun City, j'ai vraiment mobilisé les organisations des femmes et des jeunes que nous devrions être parmi les observateurs. Et nous avons commencé ce périple. Nous avons eu EISA, le PNUD, la MONUSCO et d'autres partenaires, d'autres ambassades aussi, d'autres pays qui sont sur les sols congolais, qui nous ont accompagnés. Nous avons été formés comment faire le rapport, comment le faire objectivement, comment ne pas être sentimental et comment respecter les principes. Et voilà que nous sommes vraiment expérimentés dans cela, jusqu'à ce qu'en 2013, les femmes de la RDC désignent leurs délégués pour les représenter au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne m'y attendais pas. Mais ces femmes m'ont fait confiance et voilà que j'ai été désignée pour les représenter. Et de 2013 en 2019, j'étais toujours au sein de la commission électorale indépendante. J'ai vu les autorités défiler, j'étais toujours là. Et alors, j'ai été responsabilisée de diverses manières, ce qui m'a étonnée. De la société civile, j'ai été responsabilisée de suivre les partis politiques. Bon, moi, au début, j'avais dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les partis politiques? On a dit, madame, nous te connaissons, tu as les qualités de travailler en équipe, donc ça aussi tu peux faire. Alors, j'ai fait confiance à mon président, Fait Abbé Maluma, loupé à son âme, qui a voulu à ce que je sois formée, et je lui dois beaucoup, je dois beaucoup à sa mémoire. Et c'est là où j'ai compris que c'était possible aussi que je puisse m'occuper des partis politiques. J'ai regroupé les chefs des partis politiques, les chefs des regroupements politiques. Je ne voyais pas mon âge à ce moment-là. Je voyais juste ce que je pouvais apporter. Et comme il m'avait été fait cette confiance-là, voilà que j'ai évolué, mais tout en mobilisant toujours les femmes. Être au sein de la Commission électorale nationale indépendante ne m'avait pas éloigné des mouvements des femmes, ne m'avait pas éloigné des mouvements des jeunes. Au contraire, pour moi, c'était un pont.
Elodine Tamuzinda, Au niveau de la mobilisation des femmes, vous avez vu les dernières élections. Il est vrai qu'on a eu beaucoup plus de femmes sur les listes électorales parce qu'il y avait cette fameuse loi électorale qui permettait à être exonérée, donc notamment des cautions si on avait 50% de femmes sur nos listes électorales. On a eu beaucoup de femmes qui se sont présentées. Cependant, bon, on a eu une petite progression au niveau de certaines élections, mais au niveau des législatives, bon, le résultat n'est pas tout à fait convaincant. On arrive toujours à la conclusion de dire, d'accord, les femmes sont là, elles ont été très nombreuses à se présenter, mais on ne les élit pas.
Les femmes qui ont été très nombreuses, ce ne sont pas les femmes qui sont parties par leur propre bonne volonté. Sinon, les femmes, leur souhait, c'est serait peut-être une partie dans la politique, une partie dans l'entrepreneuriat, une partie aussi dans le secteur privé ailleurs, ou même secteur public. Mais lorsque vous voyez des masses comme ça, sachez que c'est un mouvement politique. Un mouvement politique où les politiciens veulent juste remplir leur liste. Et finalement, on se pose la question, qui est électrice et qui est éligible? Toutes les femmes ne peuvent pas être candidates.
Ça, c'est ce qu'on dit. Mais on peut dire la même chose du côté des hommes. On imagine tout à fait qu'on va mettre beaucoup d'hommes sur les listes qui ne sont pas forcément des politiciens chevronnés.
Malheureusement.
Bon, c'est la même chose.
Et là, c'est là où la loi et les règles des jeux doivent être respectées. Puisque nous parlons de principes, nous avons la Constitution. C'est comme la Bible chez les chrétiens. C'est comme le Coran chez les musulmans. Mais qui lit cette Constitution? Qui la suit? La Constitution parle de la parité homme-femme, 50-50. La parité n'a jamais parlé de la caution. La Constitution n'a jamais parlé de la caution. Ce sont des mouvements politiques et nous disons non à de telles manigances qui cherchent à ce que la loi et la constitution ne soient pas respectées. Nous, nous parlons de 50%, nous ne parlons pas des cautions, puisque même lorsqu'on est exonéré de ces cautions-là, mais les politiciens ont beaucoup d'argent qu'ils amassent de leur manière. Est-ce que vous croyez que cela, c'est juste un avantage ou c'est juste une façon de remplir les listes? Puisqu'on va dire, ok, les femmes, voilà maintenant l'occasion que vous avez, vous n'allez pas payer des cautions. Bon, si je ne paye pas la caution, est-ce que je suis en tête de la liste? Non. Si je ne paye pas la caution, mais je ne suis pas en tête de la liste, je ne suis pas considéré et donc je vais battre campagne pour les chefs du parti politique et du regroupement politique. Nous ne devons pas continuer à servir de marches et pieds d'escalier. Au contraire, nous devons nous poser la question si cette parité est respectée avec toutes les mesures d'application. Parmi les mesures d'application, il y a celle de savoir si nous disons à chance égale, opportunité égale. Vous ne pouvez pas me dire qu'Elodie est intelligente seulement lorsqu'elle doit servir d'experte, mais lorsque nous devons chercher celle qui va remplir la tâche, peut-être en tête d'affiche, non, ça devient un homme. Nous parlons juste du respect des principes et des règles des jeux. Nous parlons du respect de cette constitution. Et puis les histoires, la politique, liste, caution. Et puis nous avons dit aux femmes, ça c'est un piège que nous devons sauter de toutes les manières. Pourquoi nous sommes en train de fêter? Nous fêtons puisque tout simplement les politiciens veulent ce que nous fêtons. Et donc par après, il y a celles qui ne peuvent pas comprendre puisque les contextes et les présentateurs politiques font assez que parfois nous ne réfléchissons pas assez.
Absolument, c'est la question, toujours la question, les femmes têtes de liste, etc. Ceci dit, la leçon qu'on peut tirer de la République démocratique du Congo, c'est que ça marche beaucoup mieux au niveau des nominations, avec l'exemple du dernier gouvernement. On a plus de 30% de femmes, vous avez maintenant une femme première ministre. Finalement, la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que au niveau des nominations, on peut peut-être mettre le paquet ici, c'est-à-dire se dire, bon, ben voilà, ça ne fonctionne toujours pas au niveau de l'élection, mais au niveau des nominations. Si on a des dirigeants qui respectent ce dont vous venez de parler, là, ça peut fonctionner, n'est-ce pas?
Mais nous ne devons pas aussi attendre toujours des cadeaux. Là, nous disons merci, puisque c'est la volonté du chef de l'État d'avoir une femme première ministre, et c'est une première. Et voilà que nous avons été très contents. Mais du moment où nous avons une femme première ministre, c'est pour maintenant aligner les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. La question de savoir est-ce que cette femme a la marge de manœuvre. Il faut qu'il y ait maintenant ces mesures d'application. Dès qu'il y a une femme ministre, première ministre, il faut qu'elle sache quel ministre est placé où. Mais si ce sont des ministres qui sont imposés et peut-être placés d'une manière ou d'une autre, cette première ministre sera là et si elle ne travaille pas bien,
alors, demain, là, sera jugée. Élodie Ntamuzinda, on dit toujours ça pour les femmes, qu'on place des femmes ici parce qu'il faut placer des femmes. Mais il n'y a pas moins de femmes compétentes que d'hommes compétents. Si on place une femme à tel ministère, c'est parce qu'elle est compétente.
Non, la compétence, comme je l'ai dit encore, ça ne se décrète pas. J'ai parlé du parcours. Je parle aussi de la marge et des manœuvres que la première ministre peut avoir. Bon, à supposer qu'il y ait des nominations de plusieurs femmes de la même manière que nous le voyons sur les listes des partis politiques. Et les femmes peut-être qui n'ont pas été préparées à diriger, mais c'est la première ministre qui répond. Est-ce que réellement nous pouvons voir les résultats qu'il faut? Alors, c'est, je parlais des mesures d'application, et nous ne devons pas toujours continuer à attendre des cadeaux. C'est un message qui ne peut pas se faire entendre aujourd'hui, mais si nous le faisons d'une manière objective, nous devons travailler maintenant sur toutes les femmes qui sont en train d'être nommées, puisque nous tous, nous avons commencé, par exemple, comme des novices. Il peut y avoir aussi une femme ministre, mais qui nécessite un accompagnement. Mais il ne faut pas dire qu'on a juste nommé et c'est fini, on a atteint 30%, on est en train d'envisager à arriver à 50%, mais qu'on laisse ces femmes sans formation.
Voilà. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une constitution, c'est probablement une question de volonté, les experts en genre le disent, les femmes elles sont partout, vous avez dit tout à l'heure peut-être une femme n'a jamais dirigé, etc. On a beaucoup d'experts qui sont placés dans certains ministères, qui ne sont pas forcément des anciens directeurs de ceci ou de cela.
Peut-être une parenthèse, puisque moi je ne parlais pas seulement des femmes ministres, je parlais du gouvernement. Mais si je parle des femmes, pour nous c'est une source de soulagement, avoir 30% et nous voulons en avoir 50%. Mais en rapport avec le gouvernement en général, j'ai dit que nous avons une femme première ministre, c'est une première en République démocratique du Congo, mais il faut maintenant avoir la marge de manœuvre de diriger ce gouvernement pour qu'il y ait des résultats. Et en dirigeant le gouvernement, certes que les femmes aussi qui dirigent le ministère vont se retrouver et vont bien diriger puisque c'est un système. Donc nous voulons un système assaini et que la femme qui est à la tête soit réellement une femme qui dirige et qui produise les résultats, que demain on ne dise pas que les femmes ont échoué. Merci beaucoup.
Élodie Ntamuzinda, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes experte en genre, en entrepreneuriat féminin. Vous êtes aussi experte sur les questions économiques et électorales en République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Merci chère Nathalie.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.